Philosophie première par le Père Philippe à Saint-Joudard, le 17 janvier 90.
Continuons cette réflexion sur ce point de départ de la philosophie de la personne avec Épictète. Encore quelques aspects. Mais comment reconnaître ce qui est selon la personne? Donc, il y a une expression kata, prosopon. C'est très significatif du reste pour la philosophie stoïcienne, vous voyez. La philosophie stoïcienne n'analyse plus. Donc c'est pas le kata d'Aristote selon la forme, selon la matière, c'est selon la personne. Ce n'est pas subitement que l'homme acquiert la noblesse d'âme. Examine seulement à quel prix tu vends ton choix libre, ton choix personnel. Alors ça, c'est très important de voir que la personne va de fait s'identifier à ce pro-airesin. Le choix. C'est vraiment une anthropologie éthique. Alors, c'est intéressant de voir que le mot personne naît dans une philosophie éthique. Du moins, homme ne le vend pas pour rien. Ceci donc, c'est toujours entretien. philosophique le problème de la personne. Et ça vaut la peine, parce que ça a une importance énorme. Alors, tout se regroupe autour de Broaérésis. Et c'est la noblesse d'âme. Et c'est très vrai que c'est dans le choix que vous discernez la qualité d'une personne. Ça avec mes étudiants de Fribourg, ceux que je connaissais le mieux. Et quand ils choisissaient le choix d'un jeune homme, c'est le choix de sa vocation, le choix de son épouse. Et bien, on est toujours très étonné de voir comment un jeune choisit son épouse. Très significatif de la personne. Et l'inverse aussi. On peut absolument pas le déduire de ce que vous connaissez. Il y a émergence, là, de quelque chose tout à fait particulier. Je dis ça pour comprendre cette position stoïcienne, où il y a quelque chose de très juste. La proaérésis, le choix, manifeste la noblesse de l'âme. Quand vous analysez avec dans la philosophie aristotélicienne, vous risquez quelquefois de ne pas voir suffisamment que le choix est une émergence, un dépassement qui touche la personne, un choix personnel, et donc qui définit la personne. Épictète donne cet exemple. Comme il n'y a pas d'analyse, il y a des exemples, il y a des descriptions. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile. Et puis peut-être vous pouvez le lire le soir, comme lecture spirituelle. C'est une lecture spirituelle. Parce que c'est noble, c'est grand, c'est ça a de la taille. Et puis peut-être donne cet exemple. Si on peut me mettre en prison, m'enchaîner, ce n'est pas moi, mais ma jambe qu'on enchaîne et mon corps qu'on emprisonne. Vous voyez, c'est très très curieux ça. Et d'autre part, la distinction âme et corps n'est plus acceptée. Alors, il y a une petite contradiction interne dans le stoïcisme. Parce que ça voudrait dire, mais oui, distingue très nettement l'âme et le corps. Vous pouvez emprisonner mon corps, ma jambe. N'oubliez pas, au prisonnier, on met une chaîne à la jambe. C'est pour ça qu'il dit la jambe. C'est très concret. À Taïwan, j'ai encore vu, en prison politique, les prisonniers arrivaient enchaînés aux jambes. Alors des tout petits pas, parce qu'ils ne peuvent faire que des tout petits pas. Ils sont de grosses chaînes aux jambes. Enchaîner la jambe, le corps par la jambe, puisque c'est par les pieds qu'on peut fuir. Donc il faut vous tenir. Et c'est pour ça que c'est toujours comme ça le stoïcisme. C'est extrêmement concret. C'est pour ça qu'on aime bien, c'est reposant. Mais il faut bien se rappeler ça. Si on peut me mettre en prison, m'enchaîner, ce n'est pas moi, mais ma jambe qu'on enchaîne, et mon corps qu'on emprisonne. Ce moi, aimé, c'est ce qui est au-dedans. Donc, on prend l'intériorité et l'extériorité qui remplacent la distinction âme et corps. L'homme intérieur, l'homme extérieur, de Saint-Paul, c'est Épictète. Alors, je sais pas, Saint-Paul a pu le redécouvrir, c'est sûr, mais c'est l'influence stoïcienne, et Épictète parle de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Vous ne pouvez mettre en prison que l'homme extérieur. Alors, si toute votre vie, c'est l'homme extérieur, ce qui arrive de temps en temps, c'est l'homme qui est en c'est d'être au désert, tout le temps. Les journées de désert. Ce moi, donc, c'est ce qui est au-dedans. La proie Irisis, que Zeus même ne peut vaincre. Et l'intériorité se traduit par la proie Irisis. Et cette intériorité me fait toucher le bon plaisir de Zeus. Mais la proie Irisis que Zeus même ne peut vaincre. On est dans une perspective païenne. Zeus, c'est le dieu des dieux. Épictète dit ceci dans Entretien 3, 26, 34 ou 9, 9, 31. Ce que l'on a par soi-même, on serait puéril et bien sot de chercher à l'obtenir d'un autre. C'est là où il y a un petit orgueil caché. La proie Irisis, c'est ce choix, c'est vous. C'est le moi le plus profond. Et ça, c'est ce qu'on obtient par soi-même. Mais on est victorieux dans la proie Irisis. On l'obtient par soi-même. On l'a choisi. Et ce qu'on obtient par soi-même, on ne peut pas le chercher d'un autre. On touche là un absolu. Voilà la première apparition du moi dans la philosophie. Vous voyez, ça va avec la personne. C'est ça qui est intéressant. C'est contemporain avec la personne. Le aimé. Donc il y a moi, personne, choix libre, responsabilité. Dans ce choix libre, vous touchez le moi le plus profond, celui que Zeus lui-même doit respecter. Zeus doit respecter ce moi. Le pouvoir de Zeus s'arrête devant ce moi. Et c'est très beau, hein, dans le sens, j'allais dire, c'est le païen qui touche ce qu'il y a d'extrême. Et c'est presque un appel au christianisme. Parce que le moi va relativiser Zeus. Pour tous les faits extérieurs, Zeus absolu. Mais pour le moi libre, oh. C'est pour ça que certains diront que les stoïciens ne respectent plus la divinité. On voit comment. C'est parce que par le moi intérieur, ce moi intérieur est poussé jusqu'au bout. Et donc il est un absolu. Alors il ne peut pas y avoir deux absolus. Donc vous voyez, c'est curieux du reste, et c'est intéressant à réfléchir, c'est que la personne va faire sauter la vision du divin, telle qu'elle est conçue en Grèce. Pas telle est conçue par Aristote, mais après Aristote. Et la proie Irisis que Zeus même ne peut vaincre. Du moi en philosophie, ce moi est constitué par la proie Irisis qui porte sur ce qui est en mon pouvoir, sur ce qui est de moi et par quoi je puis acquérir la grandeur et la noblesse d'âme. Celui à qui toute chose arrive selon son choix est libre. Alors voilà la définition de la liberté. Celui à qui toute chose arrive selon son choix. émerge des passions et les domine. Ça, c'est quelque chose de divin. Au fond, c'est le Dieu intérieur. Pratiquement, c'est ça, c'est le Dieu intérieur. Il n'y a plus de frontières entre Dieu et le moi. Parce que par l'immanence, je ne redécouvre pas la transcendance. Je redécouvre un absolu dans l'immanence. Mais si Aristote découvre l'absolu dans la transcendance de l'acte pur, les stoïciens découvrent l'absolu dans l'immanence. Ça, je crois que c'est le grand tournant grec. Jusqu'à Aristote, il y a la grande montée d'une transcendance objective. Chez les stoïciens, vous avez la subjectivité poussée jusqu'au bout, dans le moi, dans l'immanence du moi. Vous découvrez l'absolu. Et c'est pour ça que c'est très faux de dire que la subjectivité, c'est la modernité. Elle est stoïcienne. Elle est morale au point de départ. C'est la proie Irisis. Alors, parce que pour les stoïciens et pour Épictète, il n'y a pas de métaphysique. Il n'y a pas de contemplation. C'est ce sentiment du moi poussé à l'extrême, source de proie Irisis, de choix libre, qu'est l'absolu. Cette maîtrise de soi donne aux sages la tranquillité, la paix de l'âme, qui est pour lui le vrai bonheur, et qui lui permet de se mettre en harmonie avec les lois de l'univers. Les lois de l'univers qui viennent de Zeus. Vous voyez, le choix intérieur, Zeus ne peut pas l'atteindre. Zeus ne peut pas le vaincre. Et ce moi intérieur nous met en harmonie avec les lois de l'univers qui viennent de Zeus. Et donc il y a une rencontre de l'homme et de Dieu. Dieu, c'est le Dieu de l'univers. Et l'homme, c'est le Dieu intérieur. En gros, hein, je crois qu'on peut dire ça. Parce que c'est pas commun du tout, hein, c'est descriptif, c'est pas analytique. Alors quand on lit, et puis peut-être on écrit devant des contradictions apparentes. Je crois qu'il n'y a pas de contradiction. Mais c'est l'intériorité et l'extériorité qui commandent toute cette philosophie. Ce qui est en mon pouvoir et ce qui m'échappe. Or, les lois de l'univers m'échappent. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? C'est moi. C'est mon choix. Mais il y a un moment où les deux se rencontrent. Ah, ça c'est la sagesse. L'harmonie entre le moi intérieur et le moi de l'extériorité des lois de l'univers. Ça c'est la maîtrise de soi. Alors, la maîtrise de soi, vous savez bien, caractérise tout le stoïcisme. Ce que vous retrouvez dans saint Thomas, mais très baptisé. Hein. Dominus, oui. Être maître de soi. Le libre arbitre me permet d'être maître chez moi. D'être maître de soi. Dominus, oui. Il y a une conception de la personne humaine qui est toute différente des précédentes grâce à cette intériorité poussée à l'extrême, à la fois beaucoup plus relative à l'univers et plus immanente et plus réflexive. Cette maîtrise de soi finalité qu'elle-même. Elle se suffit à elle-même. C'est le bonheur de l'homme. Mais mon bonheur est au-dedans de moi. Donc l'intériorité touche un absolu. Cette intériorité touchant un absolu montre l'absolu de la personne. Mais cependant, je reste dans un univers. Il y a les lois de l'univers que je ne peux pas changer. Le sage sait qu'il ne change pas le lever du soleil. Même si je voudrais que le soleil ne se lève pas aujourd'hui, ma maîtrise de moi ne va pas jusque-là. Donc le sage doit respecter les lois de l'univers. Se mettre en harmonie, ne pas s'irriter parce que le soleil se lève ce matin. Il doit le saluer au contraire. Et reconnaître dans les lois de l'univers la présence de Zeus. Vous voyez, alors, il y a les deux. Aristote, d'une certaine manière, va beaucoup plus loin dans l'indépendance.
Intéressant. C'est pas commode. Pyrrhon, le pyrrhonisme. Faut moins le savoir.
personnes chez les sceptiques. Il ne s'agit plus d'une vision morale, il ne s'agit pas davantage d'une vision métaphysique, mais d'une conception réflexive, critique. C'est le moment de l'absolu de la critique. Après, il faudra aller jusque Kant, mais Kant est beaucoup moins absolu. Le pyrrhonisme va très loin. ça aboutit à des tas de maladies, c'est évident. Le rejet de l'autre, l'enfer c'est l'autre. Et ça c'est tout à fait pyrrhonien. L'enfer c'est l'autre. Or l'être c'est l'autre. Donc c'est l'enfer. La métaphysique c'est l'enfer. C'est ce qui de fait détraque tout. Puisque vous absorbez l'être. L'ami c'est l'autre. C'est un corps étranger qui vous séduit par son amitié. Qui vous rend mou par son amitié. Qui vous empêche d'être vous-même. Vous êtes dépendant. Vous voyez, l'amour, la connaissance qui me met en lien avec un autre. Et donc, corps étranger. Vous voyez, au moment, et c'est intéressant, parce que ça naît de la proie hérésis. Je crois que c'est les stoïciens, surtout, qui font naître l'attitude sceptique. Le dogmatisme stoïcien aboutit à cette opposition farouche des sceptiques. Plus qu'Aristote. Hein. C'est l'absolu de l'immanence. Donc il ne s'agit plus d'une vision morale, ni d'une vision métaphysique, mais d'une conception réflexive, critique. La perfection de l'intelligence humaine est l'époké. Hein, ce qu'on retrouve. Mais l'époké, c'est les stoïciens, c'est les sceptiques. Et on ne peut pas comprendre l'époké de la fémologie du cerf si on ne voit pas ce premier moment d'époké. C'est intéressant de voir ça. On verra ça. La perfection de l'intelligence humaine, c'est l'époque. L'époque, vous voyez ce que c'est. On traduit aujourd'hui la mise entre parenthèses, la suspension. Je suspends mon jugement. Ça, il n'y a rien de plus irritant quand vous voyez deux coqs qui se battent. C'est-à-dire deux petites personnes humaines qui se battent. Fort, fort, jusqu'au sang. Le spectateur. Mais qu'est-ce que vous dites ? Rien. Ah, rien. Je suis spectateur. L'époque, c'est l'attitude du spectateur. Être spectateur à l'égard de l'être. La mise entre parenthèses du jugement d'existence. Je suis spectateur. Il y a une sorte d'exaltation de la neutralité.
Affirmer, ne pas nier, mais demeurer au
séparée de ses deux propres opérations, affirmation et négation. Quand j'affirme, je ne nie pas. Quand je nie, je n'affirme pas. Donc, je me divise. Il y a une question de se retrouver dans son originaire, dans sa totalité. Originaire, c'est de suspendre, d'être au-dessus. Voyez, c'est curieux, c'est très très curieux de voir que la dialectique hegelienne veut dépasser affirmation et négation. Elle les dépasse par le mouvement dialectique. Et l'upoké veut dépasser affirmation et négation par la suspension. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de semblable dans les deux contraires. Cette supériorité du sage. Ah, voyez, le sage stoïcien maîtrise de soi, mais on s'engage. Supériorité du sceptique, on ne s'engage pas. On reste avec un regard pur, mais pour garder son objectivité absolue. Mais en réalité, il n'y a plus aucune objectivité. On ne s'engage pas. Ceci au niveau politique, parce que je crois que ça commence toujours par un niveau politique. Être au-delà de tous les partis, d'être au-delà de tous les engagements, la neutralité politique. Et la neutralité politique, ça va très loin. Je me souviens de cette conférence que j'ai entendue, c'était au plein de politique, c'était en Suisse, par un grand historien suisse, c'était Gonzague de Reynold, c'était après la guerre, au sujet de la neutralité suisse. Alors, la Suisse est neutre parce qu'elle est l'axe de l'Europe, au centre. Le noyau au centre doit être neutre. Deuxième partie de la conférence. La Suisse n'est plus au centre de l'Europe puisque l'Europe est mutilée. Alors, on attend la conclusion. Demeurons dans la neutralité. C'était textuellement ça, mais enveloppé de rhétorique. Mais si on cherchait le raisonnement, c'était... Alors, voyez, c'est la neutralité qui est prise comme absolue. Au début, on explique pourquoi la neutralité. Et on comprend très bien. C'est quelquefois très légitime d'être neutre. Suspension. Vous voyez, dans les élections, aucun parti me convient. Donc, je me lave les mains. Je ne vote pas. Neutralité. Suspension. En réalité, ça m'arrange très bien parce que je pourrais faire du sport. Mais neutralité, je donne une très bonne raison. Alors ça, c'est la suspension. Cette volonté, mais c'est l'exaltation de la volonté qui me met au-dessus de l'être, au-dessus du bien. Donc c'est encore moi qui est l'absolu. Mais d'une façon tout autre, cette supériorité du sage est évidemment très négative. Ne pas affirmer, mais elle lui laisse une capacité, une possibilité indéterminée, illimitée. Dès que j'affirme, je me limite. C'est le primat du possible. Autre aspect du primat de la subjectivité qui s'introduit et s'impose. Je crois que c'est ce primat de la capacité d'affirmer nier. C'est le regard du lion qui regarde l'horizon. alors ça devient l'absolu. Oui, alors la propre finalité, c'est suspendre son jugement jusqu'au bout. Dieu existe ou Dieu n'existe pas, je me mets au-dessus. Donc je me mets même au-dessus de Dieu. Parce que les sceptiques sont comme ça. Hein. Ils ne se disent pas athées. Ah non, c'est pas correct. Ils ne se disent pas religieux. C'est pas correct. Il faut être au-dessus. Au-dessus de toutes les divisions. Toutes les divisions. Aimer ou haïr, je suis au-dessus. Aimer, c'est s'engager. Haïr, c'est pas bien. Je me mets au-dessus. Oui, ça va très très loin, le poker. Il s'agit du pyrrhonisme à ce point de vue-là, est extrêmement intéressant. Parce qu'il montre un primat de la négation au-dessus de la négation. D'une négation au carré. Parce que quand je dis primat de la négation,